Nous sommes entrés dans une nouvelle séquence de la Terre et accédons par là inséparablement à un stade non moins inédit de notre propre histoire. Dominique Bourg, philosophe et ce soir notre invité, à l'occasion notamment de ce livre collectif qui s'intitule « Arrêtons le progrès, résistons ensemble pour que renaissent des jours heureux ». Et comme chaque soir, et particulièrement le lundi soir, on a bien besoin de musique. On va commencer en musique et ça va être Dick Hanegan.
Le citoyen qui est de ce monde, le fils de terre et fille qui les féconde, la terre n'est qu'un trou dans l'univers, hein. Ni de fourmis, hein, ni plein d'humains qui, je le crois et je vous avertis, est à sa fin, sur son déclin. Bientôt on sera plus qu'un raisin dans l'uni, 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 l'univers. Est beaucoup plus vaste que l'on croit connaître, que l'on croit pouvoir contenir dans nos sciences. L'univers est absolu, unique, corpusculaire, immensément grand. Relatif est notre avenir, relatif à son désir, le désir du maître des êtres, qui peut-être va nous faire disparaître. Relatif est notre avenir, sa colère sera éphémère, le petit saut d'humeur et la terre ne sera plus que vapeur. Par Jupiter. Il se fâchera quand il s'apercevra qu'une petite sphère faite de terre et de mer va trop vite sur son orbite. Il nous fera disparaître. Il nous fera une pichenette. J'aurais déjà disparu, je m'éclipserai dès demain. Je m'en vais dès demain sur mon char. Je me barre, je vais loin dans la terre.
Dominique Bourg, pourquoi avez-vous choisi la philosophie ? C'était quelque chose qui vous est apparu à l'adolescence comme une vocation d'évidence ?
À peu de choses près, oui. Je pense que c'est venu par certaines lectures. Et si je me souviens bien, un petit peu pendant les vacances d'été, entre la classe de 3e et la 2e. Et puis, voilà, j'ai commencé à lire certaines choses. Et c'est devenu une sorte d'ambiance, de contexte nécessaire à mes yeux.
Et comment la philosophie a-t-elle ordonné vos problématiques personnelles ? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez déchiré entre deux classes sociales, vous saviez pas très bien à quel milieu vous apparteniez, et la philosophie ne vous a pas accepté de manière naturelle parce que vous êtes entre plusieurs disciplines.
Oui, mais de toute façon, déjà, la philosophie, c'est pas une discipline fermée. Hein. La zone Minerve ne s'envole qu'au crépuscule, et donc les philosophes ont besoin d'autres disciplines et du réel, tout simplement, pour se nourrir, mais souvent déjà élaborées par d'autres disciplines. Quant aux histoires de classe sociale, bah, effectivement, je suis né dans une cité où la lutte des classes était franchement extrêmement tranchée. Et je me trouvais un peu à l'intersection du fait de la position professionnelle de mes parents. C'était assez cocasse, pas toujours très amusant d'ailleurs, assez violent, je veux dire.
Alors, votre thèse s'intitulait L'homme artifice, c'est pour indiquer aux auditeurs à quel point, dans ce paysage philosophique d'il y a une quarantaine d'années, vous avez innové en apportant une démarche scientifique, une démarche métaphysique, une démarche aussi d'interrogation sur le devenir du monde. Ce n'était pas forcément évident, mais vous aviez raison. Comment avez-vous ressenti la première fois que la Terre aussi pouvait souffrir, Dominique Bourg?
Ah, ça c'est une très vieille histoire. J'ai toujours le même souvenir qui me remonte à l'esprit. J'étais gamin, j'avais l'habitude de venir jouer dans un petit ruisseau où il y avait des écrevisses et on pouvait les attraper. Et puis j'ai le souvenir, maintenant, voilà, ça peut être réélaboré, mais en tout cas j'ai le souvenir que je suis arrivé une fois et le ruisseau était devenu orange. Et évidemment, les écrevisses en avaient disparu. Ce qui me reste comme souvenir, si vous voulez, à la mémoire de destruction. Et puis je dirais que les choses sont revenues de façon forte plutôt à la fin de l'adolescence, au début de la période estudiantine, où là j'ai lu à la fois « Avant que nature meure » de Jean Dore, c'était une lecture importante, c'était mon premier livre d'écologie, si vous voulez. Et puis j'étais abonné à l'époque à la revue qu'avait fondée en France Alexandre Grothendieck, qui s'appelait « Survivre » et ensuite « Survivre et vivre » comme le mouvement... Le mouvement du même nom, et ça aussi, ça a vraiment contribué, si vous voulez, à me forger une sensibilité et une sorte de préculture et écologique, mais dont je n'ai pas fait quelque chose tout de suite. C'est revenu des années après.
Alors, à l'époque, il y avait des candidats aux présidentielles qui représentaient justement la possibilité de nous intéresser aux problèmes de la Terre, mais ils étaient extrêmement marginaux. Je pense notamment à Dumont. Et puis ensuite, tout ça est reparti loin de l'opinion publique. Vous avez quel âge, Dominique Bourg?
Eh bien, au moment de la campagne de Dumont, je suis étudiant, j'ai une vingtaine d'années, et je suis la campagne de Dumont, je suis intéressé.
C'était un mec extraordinaire quand on repense à ce qu'il a proposé aux Français.
Le problème de l'écologie, c'est l'anticipation, en fait, hein. Une sorte de conséquence quasi immédiate de la structuration des problèmes d'environnement. En fait, on dégrade, mais on ne le perçoit que 20 ou 30 ans après. Et un des tout premiers à l'avoir compris, ça a été René Dumont. Et justement, quand il annonçait à la télévision, dans le cadre de la campagne présidentielle, que bien, finalement, ce geste très simple de boire de l'eau ne serait peut-être plus évident 20 ou 30 ans après, il avait effectivement raison, mais à l'époque, tout le monde se payait sa poire.
Alors, si je vous pose la question de votre âge, Dominique Bourg, c'est parce que vous avez vu, comme moi, que sur les réseaux sociaux, depuis le début de la pandémie, et encore aujourd'hui où nous parlons, des personnes jeunes nous reprochent d'être des boomers, c'est-à-dire d'avoir endommagé la planète, d'avoir pleinement sacrifié nos idéaux de jeunesse et de leur laisser en héritage un monde complètement dégradé. Est-ce que vous vous sentez coupable et responsable de cette dégradation de la planète?
Oui et non. Oui, hein, parce que forcément, j'ai moi-même contribué. D'ailleurs, quand on était jeune, on n'avait absolument pas de culpabilité. Alors, j'ai pas de voiture, mais enfin, pas de culpabilité si vous voulez monter en voiture. Alors, l'avion, non, c'est venu beaucoup plus tard. Même si le thème écologique était là, mais si vous voulez, par exemple, par rapport à la question du climat, c'est assez étonnant d'ailleurs, hein, les premiers modèles climatiques datent des années 60. Dans le rapport Nous n'avons qu'une terre de René Dubos, Barbara Ward, vous avez déjà un demi-chapitre, donc, qui date du premier sommet sur l'homme et l'environnement de Stockholm, hein, juste un peu avant, juin 72. Eh bien, il y avait déjà un demi-chapitre qui était consacré à l'effet de serre, mais c'est des choses qui semblaient très abstraites et très très lointaine. Moi-même, je me souviens que la sensibilisation à la question du climat, elle s'est faite qu'à la fin des années 80, début des années 90. En fait, hein, le GIEC a été créé en 88, et c'est, je dirais, un effet du GIEC, hein, que d'avoir attiré l'attention.
Alors, il faut vous expliquer ce que c'est que le GIEC.
Oui, alors c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est-à-dire c'est une un groupe intergouvernemental, donc c'est pas une ONG, hein, c'est une sorte d'association fondée par les gouvernements à l'époque, par l'OMM, par l'ONU, avec pour mission d'évaluer l'évolution des connaissances sur le climat, tout simplement parce qu'à partir de 85, à la suite des papiers d'ailleurs justement de Jean Zoogel, de Claude Lorius, eh bien on commence à prendre au sérieux ce qu'on connaissait déjà, mais avec l'analyse des carottages, on s'aperçoit effectivement que le climat est en train de changer et que, eh bien, sur le long cours, il y a un jeu. Alors c'est compliqué, il faudra qu'ils reviennent. On a un jeu entre l'évolution des concentrations de gaz à effet de serre et puis l'évolution de la température moyenne sur Terre. Alors ça renvoie à la théorie de l'effet de serre, si vous voulez, qui est stabilisée vers le milieu du 19e siècle. Mais là, comme effectivement les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont en train, depuis les années 50, et ça on le suit avec la courbe de Killing depuis 58, sont en train d'augmenter, et la concentration de dioxyde de carbone dans l'air notamment ne cesse de s'intensifier. Donc là on commence à voir que on va sortir, si vous voulez, du schéma traditionnel, et que ça va être dangereux. Mais encore une fois, c'est des choses qui paraissent très très abstraite. Et juste une anecdote, et c'est disponible sur le site de ma revue La Pensée écologique, j'avais interviewé il y a 2 ans Hervé Le Treut, et je l'ai réinterviewé en janvier. Et là, effectivement, c'est intéressant parce que lui-même disait que depuis l'été 2018, en tant que scientifique du climat, il ne regarde pas ces modèles de la même manière. Enfin, 2018, c'est la première année où on n'a plus que 2 saisons, pour dire les choses rapidement. On a une saison tiède, et on a une saison chaude. Et autrefois, quand vous aviez des canicules, elles étaient en général circonscrites, et par ailleurs, la température pouvait être soit dans les moyennes, soit inférieure. Aujourd'hui, maintenant, en tout cas depuis 2 ans, 2018, 2019, pour très probablement 2020, eh bien, si vous voulez, vous avez une sorte de saison chaude qui commence d'avril et qui peut aller jusqu'à novembre, et on se départit jamais d'un fond de chaleur. Et quand vous avez des canicules, elles peuvent être à plusieurs endroits à la fois. Je vous rappelle que, par exemple, en juin 2019, où la température est même montée jusqu'à 46 degrés dans un petit village de l'Hérault, ou en région parisienne, 43 degrés en fin juillet, eh bien, vous aviez en gros plus de 30 degrés donc au sud de l'Arctique, par exemple. Et donc, effectivement, on voit bien qu'on rentre dans une configuration tout à fait différente aujourd'hui, et que, mais effectivement, on rentre, on pourrait dire, dans la deuxième phase de ce qu'on appelle l'Anthropocène. La première phase, elle commence au début des années 50, avec l'explosion de nos activités économiques, l'explosion de la démographie à l'échelle mondiale. Et puis, 7 décennies après, eh bien, on commence à ressentir, à pouvoir pointer du doigt les effets boomerang de ces 7 décennies précédentes de destruction massive. Donc effectivement, les 7 décennies, pour revenir à votre question, ce sont les boomers.
Alors, ce qui est très intéressant dans votre parcours, dans votre itinéraire, dans vos prises de position, Dominique Bourg, c'est que justement, vous nous éclairez sur les raisons pour lesquelles tous les scientifiques qui nous ont alertés depuis des décennies n'ont pas été écoutés. Et il a fallu que nos corps ressentent la canicule, il a fallu que nous nous sentions mal pour pouvoir prendre en charge intérieurement un problème qui est éminemment philosophique, puisqu'il s'agit de notre vivre ensemble, à la fois sur le plan économique, sur le plan sanitaire, et aussi sur le plan humain de la solidarité. Alors je voudrais vous rappeler un chiffre que vous avez peut-être lu comme moi dans les journaux ces derniers jours. En 2019, l'humanité avait consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en une année le 29 juillet 2019. Pour cette année, en 2020, il y aura un léger recul en raison de la pandémie, et la date est reculée au 22 août 2020. Est-ce que ça nous fait une belle jambe, ou est-ce que c'est une raison d'espérer par rapport à la tragédie de la pandémie, Dominique Bourg ?
Eh bien, en fait, on peut difficilement le dire maintenant, on va le dire dans quelques mois. Évidemment, comme le calcul se fait là, mais il n'est pas évident qu'en décembre, finalement, on ait rattrapé, alors j'espère que ce n'est pas certain, mais qu'on ait rattrapé, si vous voulez, le manque à gagner en termes de consommation. En tout cas, c'était bel et bien ce qui s'était passé pour les émissions de gaz à effet de serre lorsqu'il y a eu la crise financière au départ, économique et sociale ensuite, de 2008-2009. En 2010, il y a eu un surcroît d'émissions de gaz à effet de serre qui a au minimum rattrapé, si ce n'est dépassé, ce qui n'avait pas été émis en 2008 et en 2009. Alors là, la crise est différente, mais en tout cas, on a tous glosé sur le monde d'après et on voit bien que finalement, c'est le monde d'avant qui revient très rapidement. Il y a dès maintenant à nouveau des avions pour aller, si vous voulez, de Bordeaux à Paris, alors que il y a un TGV. J'ai bien peur, si vous voulez, que au bout du compte, ce mois qu'on aura gagné, et on finisse par le remanger assez rapidement.
Alors, vous êtes de ceux qui ne voulaient pas revenir au monde d'avant. En même temps, vous diagnostiquez ce que vous voyez, donc vous êtes assez pessimiste sur les possibilités de vivre autrement et de tirer les leçons de cette pandémie. En même temps, vous nous expliquez que cette histoire d'endommager la planète, de la rendre de moins en moins habitable, revêt une dimension économique et politique. Je vais citer un chiffre que j'ai lu, je crois, dans un de vos ouvrages qui s'intitule « Le marché contre l'humanité » qui m'a beaucoup impressionné, le texte en son entier. Vous dites « Les 10% les plus riches dans le monde émettent plus de 50% de gaz à effet de serre ».
Oui, c'est une statistique qui avait été établie par l'ONG Oxfam. Une petite proportion de l'humanité est responsable de la moitié des gaz à effet de serre. Et si vous regardez ce qu'émettent les 2-3% les plus riches, vous allez, on va retrouver, si vous voulez, cet écart. Alors, ça, c'est vraiment intéressant parce que, ça contredit tout de suite un discours, si vous voulez, de droite, classique, qui consiste à dire nos problèmes d'environnement, le président Sarkozy nous a ressorti ça, nos problèmes d'environnement, c'est une question de démographie. Et ça, c'est assez amusant, parce que si vous voulez, c'est le discours de droite un peu stupide depuis des décennies. C'est toujours effectivement, et on le retrouvait par exemple chez quelqu'un comme Ardine dans les années 60. C'est parce que nous sommes trop nombreux sur Terre que nous avons ces difficultés. Alors, nous sommes trop nombreux sur Terre, certes, mais si vous voulez, il faut bien distinguer les paramètres. Quand on regarde les flux d'énergie et les flux de matière, qui sont la cause essentielle de destruction, on reviendra après à la question de la démographie, bien manifestement, c'est assez simple à comprendre, qu'est-ce qui détruit? Bien, ce qui détruit, c'est nos consommations finales. Et c'est en fait les flux d'énergie, les flux de matière qui sont sous-jacents à nos consommations finales. Donc, plus vous consommez, en général, plus vous êtes riche, plus vous consommez, et plus vous avez de responsabilités dans la destruction des conditions d'habitabilité par l'humanité et les autres espèces du système Terre. Alors, ça ne veut pas dire que la démographie, elle n'ait aucune importance, elle joue aussi, elle va jouer même un rôle assez important sur le plan de la biodiversité. Par exemple, vous prenez quelqu'un de pauvre et quelqu'un de riche, imaginez par exemple un industriel qui va faire plusieurs fois le tour de la planète par mois, il va émettre en une année même plus d'une centaine de tonnes de CO2. Si vous prenez un individu assez pauvre, s'il émet 300 kilos, ça sera peut-être le maximum. Ok, là on voit bien. En revanche maintenant, pas que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, vous avez besoin de la même surface pour produire votre nourriture, régénérer votre air, filtrer votre eau, etc. Et donc, plus on est nombreux, plus on a besoin de cultiver des surfaces, plus on va artificialiser de surfaces et plus on va empiéter sur les espaces vitaux pour les autres espèces. Donc il y a les deux, mais manifestement, ce qui est le plus destructeur, c'est la richesse via nos consommations matérielles. Ça, c'est très clair. La démographie arrive, elle est un autre facteur, et là, si vous voulez, les responsabilités sont plus égales, sont plus diffuses, à la différence de ce qui concerne les flux de matière et les flux d'énergie. Alors, quand on parle de climat, évidemment, c'est essentiellement une question de flux d'énergie, donc là, la richesse est directement impliquée.
Alors donc, si je comprends bien vos raisonnements philosophiques qui débouchent sur des propositions politiques, sur des propositions d'alternatives économiques, tout est lié. C'est d'ailleurs une des définitions de l'anthropocène. on ne peut pas dire on va essayer de s'attaquer au climat si on ne s'attaque pas au problème fondamental des inégalités sociales. Et le problème des inégalités sociales est lié au problème justement de la pollution atmosphérique et de la dégradation de la nature. Donc, une des questions qu'on peut vous poser, puisque ça fait des décennies que vous réfléchissez sur ces thématiques très importantes, Dominique Bourg, c'est on peut pas commencer par une thématique, mais comment aborder tout en même temps ? Et quelle tutelle politique voudrait accepter d'aborder de front toutes les thématiques ? Est-ce que ça oui, paraît pas complètement utopique ?
Effectivement, vouloir changer le monde pourrait paraître utopique. D'autant que pour le changer, il faudrait compter sur un bon degré d'information des citoyens, sur leur sens du réel, leur volonté de sacrifier probablement peut-être les consommations les plus superfétatoires, etc. Bon. Et donc, écologiser la société, ça supposerait des citoyens vertueux, généreux, avec de solides connaissances et un sens des réalités tout à fait pointu et bien assis. Alors ça, effectivement, ça s'appelle de l'utopie.
La difficulté dans laquelle on...
un petit peu en partie, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a le choix, si vous voulez, entre une forme d'utopie, mais une forme d'utopie accessible, vous avez raison, une forme d'utopie et alors une dystopie radicale. Ce dont il faut bien se rendre compte et ce qui passe difficilement dans l'esprit des gens, eh bien, c'est que si on continue à filer les choses, et ils vont se rendre compte dans la décennie qui vient, hein, on va être dans la première des décennies pourries de la deuxième phase de l'Anthropocène. Les gens commencent un peu à en prendre conscience, mais ça risque de s'intensifier avec les années qui vont défiler. Mais si on sera déjà, si vous voulez, à une augmentation de la température moyenne sur Terre par rapport à la fin du 19e siècle de 2 degrés en 2040, c'est-à-dire en 20 ans. Pour le moment, par rapport à cette fin du 19e siècle, on est à 1 degré et un dixième d'augmentation de la température moyenne, ce qui fait que déjà les conséquences sont visibles. On a commencé par ça tout à l'heure. Et on a connu une augmentation de la température de 9 dixièmes durant les 40 dernières années. La température commence à augmenter à partir de la décennie 80. Et là, on va connaître à nouveau, puisque comme je vous le disais finalement, j'ai des allusions tout à l'heure, le climat que nous aurons dans 2040 et la température moyenne qu'on va y connaître, eh bien c'est déjà... ce sont nos émissions accumulées jusqu'à aujourd'hui qui en ont déjà décidé. On ne peut plus revenir là-dessus. On l'a déjà décidé. Quand nous aurons atteint cette température avec 9 dixièmes de plus de 2 degrés, on va déjà sortir du plafond de la température qu'on connaît sur Terre depuis 2 600 000 ans, depuis le début du Quaternaire, c'est-à-dire depuis qu'il y a des glaces au pôle. C'est quand même énorme, si vous voulez, ce qu'on est en train de faire là. Et là, vous pourriez avoir, dès 2040, vous pourriez avoir dans toute la zone intertropicale des journées dans l'année où l'accumulation de chaleur et d'humidité ferait que sans un refuge dans un endroit frais en 7 à 8 minutes, eh bien, la température interne, nous sommes des machines thermodynamiques, notre température interne monterait au-delà des 41 degrés, et c'est la mort. Donc c'est complètement hallucinant d'imaginer qu'on a déjà décidé de ça. Mais évidemment, bien sûr, si on continue, par exemple, si on faisait que respecter l'accord de Paris, qu'on ne respecte pas, eh bien là, on pourrait, vers la fin du siècle, cette fois-ci, voir une partie de la Terre où ça ne serait pas quelques jours, mais ça serait une certitude d'avoir plusieurs semaines où on se retrouverait dans cette situation-là. Ou alors, si on peut encore raisonner autrement, il y a un beau papier qui est paru il y a quelques mois. Si vous regardez, on peut remonter au néolithique, finalement, les endroits que les êtres humains ont habité n'ont pas changé. Tout simplement parce que, quels que soient les progrès techniques qu'on a pu faire, la part qui est en permanence habitable de la Terre, elle reste la même. Or, cette part en permanence habitable de la Terre, on est en train de la restreindre. Et on va la restreindre puissamment, dès la décennie qui arrive et dans les décennies qui vont suivre. C'est franchement la où on en est. Donc c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Et si vous voyez, l'inaction par rapport à ça, effectivement, est quelque chose de très difficilement compréhensible. Alors, et on voit bien que dans ce cadre-là, c'est notre boulimie de richesse matérielle. Je vous donne un simple exemple. L'an dernier, il y a eu un pic d'aviation. En gros, c'est à peu près 100 000 l'été. C'est à peu près 100 000 avions qui circulent par jour. Je ne sais plus quel jour de l'été dernier, on a eu un pic à 200 000. Or, pour vous montrer ce que ça signifie, si vous prenez un avion de ligne et vous allez du Caire à Seattle, vous avez consommé autant d'énergie que ce qui avait été nécessaire pour l'édification des grandes pyramides de Gizeh. Donc vous imaginez le nombre de pyramides que l'on a édifiées ce jour-là. On était proche des 200 000 pyramides en une journée, simplement par nos voyages en avion. Alors, quand vous avez des gens qui imaginent que ça, on peut le faire indéfiniment sans jamais en essuyer les conséquences, c'est même plus de l'ordre de la croyance au Père Noël, c'est une forme de folie.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez la conversation avec Dominique Bourg, philosophe, et tout à l'heure, vous écouterez par la voix de la comédienne Clotilde M. un extrait de son texte « Arrêtons le progrès, résistons ensemble pour que renaissent des jours heureux », mais tout de suite, c'est Léo Ferré avec le temps.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, va. Tout va bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots. Pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et sang blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Nous avons d'urgence besoin d'un nouvel Orient, d'un nouveau cap de civilisation. Si l'on veut ne serait-ce que sauver notre peau climatique, nous devons impulser un cap nouveau à une civilisation en perdition. Le retour à la normale, sous la forme par exemple d'une relance keynésienne, indifférenciée de nos activités économiques en sortie de crise, serait délétère. Afin de ne pas exploser une élévation de la température de 2 degrés dans les toutes prochaines décennies, nous devons en effet réduire dans les 10 ans nos émissions carbonées. Il ne s'agit pas d'un serrage momentané du frein à main, comme pour le Covid, mais d'une décélération brutale de nos économies, pour engager ensuite une vitesse de croisière, en vue d'un profil d'activité nouveau, méconnaissable eu égard au passé. Nous avons été modernes, productivistes, jusqu'à la folie. Sous prétexte de nous extraire de la vallée des larmes par une quête de richesses matérielles et perdues, sans limite, nous sommes sur le point de la transformer en désert brûlant. À côté de quoi, le Covid-19 est une pichenette sanitaire. Nous avons d'urgence besoin d'un nouvel Orient, d'un nouveau cap de civilisation. Modernes, nous nous étions assignés comme but de produire toujours plus et de redistribuer cette richesse. Tel était le fondement de notre civilisation. Celle-ci était à même d'accueillir un système d'alternance démocratique. Nous pouvions nous opposer sur les moyens optimaux de produire et sur les critères de redistribution de la richesse ainsi produite. Quel nouveau cap ? Même si ça ne saurait suffire, il convient en premier lieu de poser la question suivante. Qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de la Terre ? La réponse est limpide. Les flux de matière et d'énergie sous-jacents à nos activités économiques, lesquels sont directement liés à nos niveaux et modes de vie. Un seul exemple. Les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions mondiales. La moitié la plus pauvre n'émet que 10% des gaz mondiaux. Première conséquence, nous allons devoir produire beaucoup moins et même restaurer au long cours les sols et les écosystèmes. Premier objectif donc. Deuxième objectif, réduire les inégalités et plafonner la richesse qui débouche sur un droit effectif de détruire la vie sur une planète exsangue. Ces deux objectifs peuvent largement donner lieu à des interprétations contrastées, à des positionnements du curseur contraire. De quoi reconstruire l'organisation du débat public sous forme d'une opposition droite-gauche. De tels choix impliqueraient une refonte de l'appareil productif. Ce dernier devrait s'orienter plus sur les infrastructures que sur de petits objets. Que l'on songe seulement à la nécessaire transformation de nos villes, afin qu'elles puissent résister tant à la chaleur qu'à la décrue énergétique. Quant aux objets, à défaut d'être produits en nombre, ils pourraient devenir plus durables, modulables, tout simplement plus soignés esthétiquement comme ergonomiquement. L'agriculture, tout à l'agroécologie, se déploierait dans un contexte de sobriété énergétique. Aujourd'hui, la production d'une calorie alimentaire exige au bas mot 10 calories fossiles. Ce sont en conséquence entre 20 et 30% de la population active qui pourrait y être allouée, surtout à certains moments. Évoquons encore un aspect de ce futur possible, la spiritualité. La modernité nous a convaincus qu'on pouvait réaliser, épanouir notre humanité par la possession matérielle et la consommation sans cesse réactualisée. Et c'est évidemment ce qui n'aurait plus aucun sens. Quid alors des modalités nouvelles de réalisation de soi ? Quelques indices permettent de suggérer qu'une refonte de nos relations vivantes pourrait y jouer un rôle fondamental. Le lecteur l'aura compris, ce n'est pas à toute forme de progrès que nous nous opposons, mais à une acception étroite, réductrice et égoïste, tant socialement qu'eu égard aux vivants sur Terre. Quant à la connaissance, elle constitue à nos yeux une valeur fondamentale. C'est par la connaissance que nous pourrons tant échapper aux raids du Covid qu'anticiper la menace climatique. Mais le vrai devrait à nouveau être associé au beau et au bien commun.
Alors, nous venons d'entendre, Dominique Bourg, un extrait d'un de vos textes. On peut dire que vous êtes militant, même pas militant, lanceur d'alerte, même plus lanceur d'alerte. Vous êtes quoi alors? Vous êtes quelqu'un qui essayait de nous faire comprendre ce qui nous arrive, tout en nous faisant espérer que ce qui nous arrive n'est pas forcément le pire, car nous pouvons nous opposer au pire.
Alors, oui, c'est ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que on ne peut plus s'opposer à l'entrée dans l'Anthropocène. Ça y est, on y est.
Et puis, on y est, ouais, c'est fini.
On peut même, ouais. Voilà, c'est fini. On ne peut même pas, si vous voulez, faire que nous n'aurons pas une augmentation de température de 2 degrés dans une vingtaine d'années. Ça, c'est dans les tuyaux. Et les conséquences seront déjà lourdes. En revanche, on a encore des marges, mais dans la dizaine d'années qui vient, et en commençant très tôt, de faire qu'on n'explosera pas cette augmentation de 2 degrés. Ça, c'est entre nos mains pour quelques années encore. On a 10 ans pour faire l'effort, mais on ne peut parvenir à cet effort de réduction d'un peu plus de la moitié de nos émissions à l'échelle mondiale dans les 10 années qui viennent, si évidemment on s'y met demain. Si on s'y met après-demain, c'est terminé. Donc voilà, c'est là où on en est. On ne peut plus faire que la planète sera moins habitable qu'elle ne l'est encore, mais on peut encore faire qu'elle reste quand même grosso modo habitable pour les générations qui viennent. Donc effectivement, quand si on ressonge aux boomers de tout à l'heure, c'est même très sympa de dire boomer. Hein. La responsabilité, elle a été très lourde.
Alors vous liez ensemble, Dominique Bourg, dans votre démarche philosophique et politique, le marché, les techniques et l'environnement. Et vous êtes un de ceux, vous n'êtes pas le seul, mais ce courant devient de plus en plus important dans la philosophie politique. Vous êtes un de ceux qui stigmatisait le progrès. La ruine même de l'idée de progrès semble maintenant être une évidence. Est-ce que pour autant vous revenez à l'anté? Alors je vais prendre un exemple très concret que vous développez et ça m'a beaucoup intéressé, je crois, dans un de vos textes qui s'intitule Une nouvelle terre. Vous critiquez notre société qui a accepté la perte des savoir-faire, la perte du savoir de la main, la perte de l'artisanat. Et vous allez même beaucoup plus loin. Allons-y. Par exemple, les médecins. Vous dites qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en médecine grâce à une robotisation de la médecine qui a permis de grands, grands progrès. Mais en même temps, ces progrès s'accompagnent de choses négatives parce que les médecins n'ont plus le temps de palper les corps, de savoir exactement ce qui se passe, etc. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rapport au passé? Êtes-vous nostalgique du passé ou plaidez-vous pour un futur plus équilibré par rapport à notre destruction de nos savoir-faire?
On s'est nourri avec deux illusions. Cette idée de progrès, c'était l'idée que l'ajout, si vous voulez, de connaissances, de techniques, débouchait forcément sur un monde meilleur. Et qu'en fait, il y avait peut-être pas, ça n'avait pas de sens dans cette idée de progrès, qu'il puisse y avoir un optimum technique. C'était quelque chose d'idiot, ça n'avait pas de sens. Or, on est en train de constater qu'aujourd'hui, si vous laissez que pousser jusqu'à l'infini l'artificialisation, c'est impossible, et que on peut pendant un certain temps avoir des effets bénéfiques, et puis en produisant toujours la même chose, en continuant à avancer plus loin, eh bien on voit que c'est de moins en moins bénéfique, ça pourrait même être totalement négatif. Ensuite, autre chose aussi, c'est que, et c'est surtout ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'il n'y a jamais eu de progrès sans regret. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un univers très simple, où on peut comme ça accumuler de manière simple sans jamais rien perdre. Quand on gagne sur un point, on perd sur un autre. Et donc, si vous voulez, l'idée de progrès classique, elle est simplificatrice de deux manières. Elle nous fait croire que, en poursuivant toujours sur la même lancée, eh bien, les conséquences qui à un moment donné sont positives continueront à être positives, elles deviendront même de plus en plus positives. Ça ne marche pas. Et deuxième chose qui ne marche pas, c'est que, ben, parfois, pour acquérir des choses intéressantes, on en perd d'autres, qui sont peut-être tout aussi intéressantes. Et du coup, c'est une invitation, si vous voulez, à sortir d'un imaginaire extrêmement simpliste. Alors, maintenant que la chose soit claire, hein, revenir au passé n'a pas de sens. Hein. Vous allez me dire, on va revenir à la lampe à huile. Ben, il n'y a plus de baleines. Comment voulez-vous revenir à la lampe à huile? Puis on est tellement nombreux sur Terre que même s'il restait des baleines, les pauvres, elles disparaîtront en quelques jours pour fournir l'huile en question. Donc non, on ne peut pas revenir dans le passé. Ça n'a pas de sens. Mais en même temps, on voit bien qu'on est dans une espèce de cul-de-sac de civilisation. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que nos problèmes aujourd'hui ne sont pas que politiques. Le politique peut être un levier pour aider à les changer. Mais ils sont beaucoup plus profonds que ça. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est une civilisation qui s'appuie sur des siècles. Évidemment, on n'en change pas en 5 ans. Mais non, le monde de demain, si tant est qu'il y a toujours un monde pour des humains demain,
vous êtes vachement optimiste.
Si on est complètement fou et si on continue notre folie, on peut se poser problème. Et si on devient raisonnable dans la décennie qui s'ouvre, voilà, on peut être plus optimiste, mais je n'ai pas
Mais alors, quand vous dites arrêtons le progrès, arrêtons quel type de progrès selon vous, Dominique Bourg?
C'est très clair. C'est un type de progrès qui imagine que accumuler à l'infini des techniques va nous rendre heureux. Premièrement, aujourd'hui, l'accumulation des techniques, alors qu'elle avait produit l'inverse pendant les Trente Glorieuses. Pendant les Trente Glorieuses, on a bâti une espèce de confort matériel en Occident assez largement diffus. C'est-à-dire, en gros, tout le monde en a bénéficié, même si tout le monde n'en a pas bénéficié de la même manière. On a connu une époque où, effectivement, ce progrès-là débouchait sur une réduction des inégalités. Et puis, on avait un progrès matériel qui débouchait sur la création d'emplois. Et donc, on a eu une espèce d'optimum civilisationnel pendant ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, sans s'apercevoir qu'en même temps, on commençait à saper les bases de l'habitabilité de la Terre. Mais on n'en était pas conscient, on en était conscient que vers la fin. Donc, poursuivre ce progrès-là, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez le numérique, qui permet une surconcentration de la richesse. Donc, en fait, il surproduit les inégalités. En plus, il s'associe à une vague néolibérale qui fait qu'on a fait sauter tous les barrages. En termes de bien-être, on sait très bien que les déterminants essentiels du bien-être, c'est la qualité de vie que l'on entretient avec ses proches et avec son environnement social. On a des techniques aujourd'hui, au contraire, qui ont tendance à détruire ce bien-être. Et puis, au-delà de ça, au-delà de la destruction du bien-être humain, on l'a vu, l'aboutissement, c'est une terre qui sera de moins en moins habitable et de plus en plus hostile. Donc, la poursuite sur le type de société, si vous voulez, qui a été le nôtre, avec son type de progrès, eh bien, elle est absurde aujourd'hui. Elle nous amène à la mort, tout simplement. Voilà. Donc, on va pas continuer. C'est idiot de continuer.
Alors, n'est-il pas déjà trop tard? C'est une question qu'on peut se poser en lisant vos livres, Dominique Bourg. Car vous posez de très bonnes questions. Vous nous expliquez que justement, grâce ou à cause d'Internet, il y a un automatisme des individus qui augmente. Et dans plusieurs pays autoritaires, voire totalitaires, cet automatisme des comportements individuels est passé silencieusement et a été accepté silencieusement par des populations. Vous nous dites qu'il y a des agents économiques hyper puissants qui sont des agents économiques privés et que face à eux, les États ne disposent pas de beaucoup de capacités de résistance. Et vous nous dites que peut-être que les transhumanistes gagnent du terrain un peu chaque jour. Donc le tableau de la définition de notre propre liberté est pour le moins extrêmement négatif.
Oui, on peut même en rajouter, si vous voulez. On sait depuis le développement de Singapour, depuis l'introduction de la Chine dans l'OMC, etc., que le marché ne s'accompagne pas nécessairement de l'expansion des libertés. Au contraire, les pays les plus performants économiquement aujourd'hui sont des pays qui détruisent les libertés publiques fondamentales. On a une tendance à les détruire avec l'arrivée du populisme dans les nations occidentales. On a ça avec Trump, on a ça avec Salvini, etc. En France, on a une tentation aussi de ce côté-là. On a eu le Brexit en Angleterre. On voit très bien que, effectivement, les techniques qui sont les nôtres en matière de numérique permettent une forme d'arraisonnement social absolument inouï. Dans un pays comme la Chine, au moins dans les villes, vous pouvez avoir des caméras à peu près partout, avec une reconnaissance faciale. Avec les moyens techniques dont les pouvoirs aujourd'hui peuvent s'emparer, on arrive à quelque chose de cauchemardesque dépasse de loin toutes les dérives autoritaires qu'on a pu connaître par le passé. Et effectivement, c'est pas quelque chose qui est extrêmement réjouissant. En revanche, si vous voulez, cette surveillance et ce type de société, elle-même, elle est inséparable d'une tendance qui l'amène à surexploiter les ressources, à détruire les équilibres climatiques, à dézinguer complètement la vie, à se trouver confronté à des attaques virales, etc. Comme on a pu le voir, elle-même, elle va à sa propre ruine. Et en fait, ce qui est assez étonnant, si vous voulez, c'est que quand vous relisez aujourd'hui le rapport Meadows publié en 72, dans leurs différents scénarios, ils nous montraient que quels que soient les progrès techniques, à la fin, on avait quand même un effondrement des courbes. Et effectivement, si vous voulez, 50 ans après, on ne peut que leur donner raison. D'ailleurs, en fait, si on regarde celui des scénarios dont les auteurs du rapport pensaient qu'il était le plus probable, le scénario Standard Run, en fait, la réalité, en gros, avec une marge d'erreur de 5% par paramètre, la réalité a suivi les projections d'il y a maintenant 50 ans. C'est assez étonnant.
Alors, il nous reste que quelques instants, hélas, Dominique Bourg, pour parler des pistes d'espoir que vous dessinez à l'intérieur de votre propre philosophie. Il y en a une que j'ai trouvée très intéressante, c'est ce que vous appelez l'exosomatisation, c'est-à-dire, vous allez la définir, mais en tout cas, si j'ai bien compris, c'est quand même la possibilité pour nous, êtres humains, de pouvoir recourir à une certaine forme de spiritualité et de reprise en main de notre propre conquête de liberté.
Oui, alors l'exosomatisation, c'est un phénomène bien connu des biologistes. Ce qui caractérise beaucoup d'espèces animales, c'est que pour leur développement, elles vont mettre à profit des éléments matériels de leur environnement. Pas simplement faire un nid, vous avez énormément d'espèces animales qui utilisent des outils. Et disons que chez nous autres êtres humains, cette exosomatisation a pris une importance fondamentale. Et on peut, dans l'homme artificiel, j'avais interprété ainsi le langage, comme si vous voulez une forme d'artefact primitif et qui avait décuplé nos capacités sémantiques, symboliques et par là même nos capacités de communication. Et puis finalement, les outils, eux, ils vont développer, permettre un essor de nos capacités cinétiques. Mais justement, ce que j'avais pas vu à l'époque, c'est que ce processus-là, là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il peut avoir un optimum, et à vouloir forcer cet optimum, on va finir par s'apercevoir que les circonstances sont plus destructrices. En revanche, là où le côté spirituel, si vous voulez, est évident, c'est que vous pouvez pas opposer le côté spirituel et le côté matériel. C'est comme le recto et le verso d'une même feuille de papier. Je m'explique très simplement. Qu'est-ce qui détruit, on l'a rappelé au début de cette émission, ce sont nos consommations. Et c'est quoi nos consommations? C'est une forme de spiritualité. C'est-à-dire, c'est le mode moderne de réalisation de soi. La réalisation de soi pour les modernes, et on a vu ça se dessiner dans la philosophie du contrat, la réalisation de soi pour les modernes, c'est ce qu'on va appeler le consumérisme. C'est la possession. Posséder un statut, posséder des biens, posséder des personnes, une belle famille, etc. Et évidemment, ce mode de réalisation de soi, cette spiritualité en creux d'ailleurs, des modernes, elle appelle derrière une ontologie qui est une ontologie de la consommation. Si effectivement, pour se réaliser, il faut accumuler les objets, effectivement, il faut aussi accumuler les activités extractives, les émissions de dioxyde de carbone, etc. Et c'est cet ensemble de ce monde-là, ces deux côtés, spirituel et matériel, qui est en train de s'effondrer. Et on voit d'ailleurs d'ores et déjà dans la société d'aujourd'hui des aspects beaucoup plus constructeurs venir. Alors, on peut aussi trouver une forme de parade politique. Là, je renvoie à un livre qui va apparaître dans une dizaine de jours, qui s'appelle « Retour sur Terre, 35 propositions », où nous sommes 7 auteurs. Là, on essaie de tenir tous les bouts de la chaîne et de proposer des mesures, si vous voulez, qui nous entraîneraient vers une forme d'être au monde, au bout du compte, et probablement vers une spiritualité, une façon de se développer soi-même, très différente de ce consumérisme.
Eh bien, merci Dominique Bourg, merci pour tous vos livres, Le marché contre l'humanité, Une nouvelle terre, L'homme artifice, Retour sur terre, ça sera pour dans 10 jours, avec vous, ça sera très bien. Merci à toute l'équipe de L'Heure Bleue, merci à Ronan Maé qui était à la technique ce soir, merci à Maëlane Loaec, merci à Anne-Sophie Dazard, à Elodie Royer, à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, et à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal de la rédaction qui vous sera présenté par Alexis Demeyer, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka pour le numéro 1 de son Very Good Trip. On va se quitter en musique avec Ayo Rosie.
Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. Was this girl that I once knew? Let's just say her name was Rosie, Rosie Blue. Rosie was pretty, although she barely smiled. Her eyes seemed dark, and I always wondered. Rosie never spoke much about her home. She said she loved poetry, she'd even write her own. I met Rosie Morocco, Agadir, and how I wish that Rosie was still here. Then I would say, Rosie, Rosie, don't be so sad. Rosie, don't you know life ain't all that bad? Hey, Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love, and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. I wish I knew that Rosie was depressed. She couldn't find love, cause her inside was a mess. In this crazy world we're living in, there's too many Rosie Blues. And if you take a moment, I'm quite sure you might think of a few. Everybody needs some love, and so do you. Hey, Rosie, Rosie, Rosie Blue.